France Culture.
Réplique, Anna Arendt à Paris, avec Martine Lebovici et Marina Touyez. Ans se sont écoulés depuis la mort d'Anna Arendt le 4 décembre 1975. Et l'intérêt pour son œuvre, comme pour sa vie, ne s'est pas démenti. Bien au contraire. Dernier témoignage de cette curiosité passionnée, le livre de Marina Touyez, préfacé par Martine Lebovici, Paria, Anna Arendt et la tribu en France, 1933-1941. 1933, c'est l'année fatale de l'accession de Hitler au pouvoir. Dans quelles conditions Anna Arendt a-t-elle quitté l'Allemagne et pourquoi a-t-elle choisi la France, Marina Touyez?
Anna Arendt, en 1933, elle décide en réalité d'entrer en politique, ce qu'elle n'avait pas fait avant. Elle a 26 ans, au moment le plus compliqué. C'est-à-dire que il y a donc l'arrivée de Hitler au pouvoir, l'incendie du Reichstag en février en 1933, qui va provoquer des arrestations massives d'intellectuels, d'écrivains, de scientifiques, qu'ils soient d'ailleurs proches ou pas des opposants et du Parti communiste. Et en fait, à ce moment-là, son premier mari, Günther Stern, qui se fait déjà appeler Günther Anders, lui fuit parce qu'il est proche notamment de Bertolt Brecht. Il se pense sur des listes de personnes à arrêter. Donc il fuit très rapidement dès mars vers Paris. Et elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle choisit de rester. C'est vraiment une démarche pour elle de se défendre, et elle le dira plus tard en 64 face au journaliste Günther Gauss, de se défendre en tant que juive. Elle avait besoin de ne pas être innocente. Elle sait très bien que les persécutions envers les juifs vont s'abattre très rapidement. Elle est très clairvoyante sur le danger des nazis dès 1931, alors même que ses plus proches ne le voient pas ainsi.
Oui, d'ailleurs, votre livre débute par une conversation entre Anna Arendt et son amie Anne Mandelson, qui va devenir l'épouse d'Erich Weil. Elle a l'impression qu'Anne Mandelson n'a pas vraiment conscience du danger.
Elle dit elle se rencontre dans une rue à Berlin vers 1931 et Anne Mandelson ne semble pas prendre conscience de la réalité du danger qui menace les Juifs en particulier. Anna Arendt, à ce moment-là, elle est persuadée à la fois que les nazis vont arriver au pouvoir, donc on est en 1931, et à la fois que l'Allemagne va devenir irrespirable pour les Juifs, intenable. Et Anne Weil lui répond, alors Anne Mandelson, vous avez raison à ce moment-là, pas encore l'épouse d'Erich Weil, lui répond non, j'ai pas remarqué que l'antisémitisme était, elle sait qu'il y a de l'antisémitisme en Allemagne, mais elle a pas analysé les choses à ce point-là. Anna Arendt tourne les talons en lui assenant, tu es folle, comme Anna Arendt pouvait l'être, très catégorique.
Et... Oui, mais même Hans Jonas, vous le dites dans votre livre, Marina Touyez, qui avait conscience du danger, faisait preuve d'une sorte d'optimisme, parce que quand Hitler arrive au pouvoir, il dit « Dieu merci, nous y voici enfin, c'est la seule façon de nous débarrasser de cette peste, en quelques mois ils seront finis, il fallait qu'ils y arrivent un jour, et comme ce sont des fous, ils auront bientôt fait faillite ».
Oui, c'est très intéressant, je trouve, l'aveuglement un petit peu des intellectuels. Karl Jaspers le reconnaît dans une lettre à Anna Arendt aussi, le philosophe et mentor de Anna Arendt, qu'il n'avait pas cru Anna Arendt. Donc on a vraiment une preuve que Anna Arendt voit les choses avant les autres. Et ce qui est très intéressant aussi, ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est le fait que même quand les nazis sont arrivés au pouvoir et qu'ils sont obligés de fuir, que ce soit Brecht, que ce soit Döblin, Berlin, ils pensent qu'ils vont pouvoir revenir dans quelques semaines. Je cite les poèmes de Brecht qui montrent qu'ils sont persuadés qu'ils vont revenir. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, et en particulier Berlin, c'est beaucoup des intellectuels en réalité qui se trouvent à Berlin, est en avance sur tous les plans, sur les plans des sciences, des techniques, des arts avec l'expressionnisme, des sciences avec la psychanalyse. Donc la possibilité que la barbarie triomphe dans ce pays-là, c'est pour ces intellectuels-là impossible. C'est la patrie de l'humanisme, l'Allemagne, pour eux. Oui, ça va permettre de montrer que Hitler n'est qu'un clown. Et ça, c'est le défaut aussi de toutes ces caricatures dans les années 30 dans les cabarets berlinois. C'est que finalement, de tourner en dérision Hitler, ça fait passer à côté de, en réalité, le soutien aussi qu'il a dans la population.
Alors, Hannah Arendt veut rester. Elle ne part pas tout de suite, à la différence de son mari. Elle dit ceci, en effet, elle l'a souvent répété, lorsqu'on est attaqué en tant que juif, c'est en tant que juif qu'on doit se défendre, non en tant qu'allemand, citoyen du monde, ni même au nom des droits de l'homme. Elle reste, et que se passe-t-il ? Pourquoi est-elle contrainte à l'exil, Martine Nebovici ?
Il y a cet épisode à la Gestapo, parce qu'elle était... Elle était en lien. Enfin, ce qui a, c'est que cette conscience qu'elle a effectivement dans ces années-là de la du danger de l'accession d'Hitler au pouvoir et surtout de l'importance de l'antisémitisme dans le nazisme. Un très grand nombre de juifs ont vis-à-vis de l'antisémitisme à ce moment-là des cadres de référence qui sont des cadres anciens d'une certaine façon. Les pogroms habituels, l'histoire de persécution du peuple juif, etc. Mais je crois que ce qu'Aren comprend très très rapidement, c'est qu'il y a quelque chose de différent avec le nazisme et que l'antisémitisme est en train de devenir au centre de leur idéologie. Et ça, c'est lié à son investissement dès les années 30 dans le sionisme.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'elle est missionnée par le mouvement sioniste en 1933 pour récolter des preuves de la menace antisémite en Allemagne. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'elle est arrêtée et qu'elle passe, je ne sais plus combien, une semaine dans les locaux de la Gestapo, mais qu'elle rencontre là un type qui, apparemment, est un peu différent des autres.
Un officier de la Gestapo.
Voilà, et qui lui dit, bon, vous pouvez partir. Et là, elle a effectivement le réflexe de ne pas rester une seconde de plus en Allemagne et de partir d'abord par la Tchécoslovaquie pour arriver en Suisse.
Pour arriver en France. Mmh. Et pourquoi choisit-elle la France, Martine Nebovici ?
Oui, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose en Suisse qui se passe avec Martha Mundt, l'amie de sa mère, et qui a des contacts, je crois, avec agriculture et artisanat. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui fait qu'elle sait qu'en France, elle a une possibilité de subvenir à ses besoins. Donc, je ne suis pas sûre que... Elle est l'idée spécialement qu'il faut aller en France, mais il y a un concours de circonstances qui fait que elle arrive en France et que aussi elle découvre ce que c'est que la France et
oui, c'est voilà. Ça. Elle reste Elle reste 2 mois en Suisse. Pourquoi ? Peut-être, là, on n'a pas de certitude. En tout cas, elle ne semble pas pressée de rejoindre son mari qui est déjà à Paris.
C'est vrai qu'il y a Günther Stein qui est déjà là aussi.
Voilà, oui. Il y a son mari qui est déjà... Après, on sait que leurs rapports sont devenus plus amicaux que conjugaux, apparemment. Ce qu'elle dit, en tout cas, dans cet entretien avec Günther Gauss, c'est quand même... se défendre en tant que juive, et donc c'est dans cette optique que je me suis tournée vers la France. Elle dit quand même ça, donc il y a peut-être quand même effectivement, comme vous le disiez Martine Lebovici, le fait qu'elle a des contacts par sa mère avec certaines structures sionistes qui vont lui permettre de faire ce travail en tant que juive de sauvetage des réfugiés allemands, et puis on sait en tout cas qu'à l'époque, beaucoup de réfugiés, la plupart des réfugiés d'Allemagne se tournent vers la France et vers Paris. Et il y a à la fois le fait qu'ils pensent qu'ils vont être bien accueillis, que la France a une réputation de terre d'accueil, et le fait qu'il y a encore les échos de l'affaire Dreyfus, qui n'est que 30 ans auparavant, et que dans l'Europe de cette époque, l'affaire Dreyfus, c'est quand même l'étonnement d'intellectuels français qui vont se battre pour défendre un juif. Et donc, dans les milieux notamment sionistes, on se disait qu'on allait pouvoir, en France, trouver du soutien, mais trouver du soutien pour continuer le combat.
Pas seulement dans les milieux sionistes, il y a beaucoup de gens... parmi les Ostjuden, les Polaks, qui ont choisi la France en se disant que un pays qui se déchire pour un officier juif, c'est inouï dans toute l'Europe. Mais alors justement, Hannah Arendt arrivant en France et dans nous autres réfugiés, qu'elle a publié en 1943, nous avions été chassés d'Allemagne parce que nous étions juifs, mais à peine avions-nous franchi la frontière que nous étions des Boches. Elle dit cela... Et nous verrons d'ailleurs toutes les brimades, toutes les vexations auxquelles les réfugiés antifascistes ou juifs ont été soumis en France. Mais d'autre part, vous citez, Martine Lebovici, une phrase stupéfiante d'Hannah Arendt, prononcée lorsqu'elle a reçu le prix Sonning en 1975, l'année de sa mort. « J'ai été en partie formée par 8 longues années assez heureuse passées en France. » Que veut dire ce « assez heureuse » ?
Il y a plusieurs sens, c'est-à-dire d'une part, elle était jeune, elle avait 25 ans, et je crois que l'âge à laquelle on décide de partir d'un pays est extrêmement important. Bon, on peut comprendre par exemple que des gens qui en Allemagne avaient des juifs qui avaient 50, 60 ans, ben, qu'ils hésitaient à partir parce qu'ils n'avaient peut-être pas l'énergie aussi de faire tout ce périple. Donc elle était jeune. Et puis, alors là, c'est assez heureuse, je crois que c'est vraiment le livre de Marina qui le déploie, hein, c'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré la précarité, malgré les empêchements administratifs, il se forme effectivement ce que Marina appelle une tribu, c'est-à-dire des relations entre les exilés, juifs et pas juifs d'ailleurs, des gens qui sont pour la plupart aussi des antifascistes, des anciens militants, des déçus du parti communiste allemand, etc., et qui développent entre eux des relations très fortes d'amitié et surtout de solidarité. C'est-à-dire, ça, c'est toute l'histoire du 10 rue Dombasle qui est extraordinaire dans le livre
de
Marina.
C'est le titre que vous avez à votre préface, d'ailleurs.
C'est-à-dire, Marina aurait pu appeler le livre « Le 10 rue Dombasle » et on a vraiment l'idée d'un film qui prendrait cet immeuble, un peu à la Georges Perec, hein, qui prendrait cet immeuble et où on imagine tous ces gens, c'est l'allemand comme ça qui est parlé du premier au cinquième étage. Bon, mais ça, c'est vraiment ce qui est extraordinaire dans le livre de Marina, quoi. Ça, c'est,
alors justement, Marina.
Oui, je souhaiterais rajouter à ce que dit Martine. Effectivement, elle a connu en France un certain bonheur. Tout est dans le assez, heureuse.
Oui.
Simplement, ce que je voudrais dire par rapport à la persécution qu'ils vivent en France et aux souffrances qu'elle a connues, et notamment à Gurs, qui sont très fortes, et on verra si on a le temps d'en parler.
Bien sûr.
Il faut voir aussi, à mon avis, cette phrase dans un contexte où elle a été ensuite traumatisée par la nouvelle d'Auschwitz en 1943, qu'elle apprend avec son mari quand elle est réfugiée aux États-Unis, qui est pour elle un véritable bouleversement. Elle dira maintes fois dans sa vie que ça, c'était autre chose, que de ça on ne s'en remettrait pas, et que donc je pense que pour elle-même, elle a même eu elle-même, hein, on le voit dans ses lettres à Anne Veil, une certaine culpabilité d'être encore en vie après le génocide, et elle, ça a occulté d'une certaine façon, ça a relégué aussi, pour des questions de décence, sa propre souffrance. Donc je pense qu'il faut aussi cette phrase, je pense, pour Hannah Arendt, la remettre dans le contexte de, pour elle,
heureuse par rapport à ce qui s'est passé.
D'ailleurs, il y a un épisode assez intéressant dans la correspondance avec Mary McCarthy.
Oui.
C'est-à-dire que le jour où elle a rencontré Mary McCarthy dans le milieu des intellectuels américains, à un moment, Arendt dit « Comment pouvez-vous dire ça, moi qui ai été déportée ?» Et puis ensuite, elle lui écrit « Bon, j'ai exagéré, je n'ai pas été vraiment déportée, enfin, j'ai pas été déportée, je n'ai été qu'à Gurs. » Mais elle tient quand même à rectifier pour être quand même, je crois, honnête avec son propre parcours.
Oui.
hein, quelque chose comme ça.
Oui, je pense que c'était compliqué, et pas seulement pour elle, pardon, de parler de ce qu'ils avaient vécu en France, une fois qu'on a appris Auschwitz.
Absolument.
Et qu'on a appris et le camp d'extermination et les camps de concentration. Ça, effectivement, il y avait une autre échelle de la souffrance.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, elle dit d'ailleurs, dans un entretien extraordinaire à la télévision allemande, il s'est passé des choses terribles, bien sûr, nous avions des ennemis, mais Auschwitz, c'est autre chose. Mmh. Et là, cette phrase incroyable, Auschwitz n'aurait jamais dû se produire.
Oui.
Auschwitz n'aurait jamais dû se produire. On ne peut pas se réconcilier avec cet événement. D'un autre côté, on ne doit pas sous-estimer non plus la déception, les souffrances auxquelles elle et d'autres ont été exposées, et notamment de la part des Juifs français, les Israélites. Vous citez d'ailleurs dans votre livre, Marina Touyez, Raymond Aron, qui dit ceci: « Bien qu'assimilé, je détestais les Israélites qui ne voyaient dans les Juifs réfugiés que des boches et l'occasion ou la cause d'un nouvel antisémitisme. L'effort des Israélites français de séparer leur sort de celui des Polaques me répugnait. » Et Hannah Arendt d'ailleurs a théorisé cette disjonction, cette cassure, en reprenant à son compte l'opposition établie par Bernard Lazare entre les parias et les parvenus. Elle faisait partie des parias, et les parvenus, ceux qui avaient réussi à s'assimiler, ne voulaient rien avoir avec eux parce que ils pensaient qu'ils les mettaient en danger. Marina Touyez.
D'un point de vue historique, l'accueil des Juifs réfugiés d'Allemagne en France va malheureusement, comme vous le dites, être une grande déception. Il est pris en charge par les Israélites français, c'est-à-dire ces Juifs assimilés qui sont en France depuis l'émancipation, c'est-à-dire depuis 1791. Et en réalité, c'est aussi intéressant de le souligner, depuis quelque temps, en 1933, ils ne sont plus majoritaires dans la population française, ce sont les Juifs de l'Est qui sont venus en plusieurs vagues d'émigration à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui sont majoritaires. Ça explique aussi peut-être un sentiment d'être un petit peu menacé pour les Israélites en France. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont soutenir l'arrivée des Juifs allemands d'une certaine façon. Dès l'abord, on pense qu'ils mettent en place un comité national de secours aux victimes de l'antisémitisme en Allemagne, qu'ils vont venir en aide. Ils disent qu'il y a un élan de philanthropie à avoir. En réalité, quand on regarde les textes, les comptes rendus des réunions du comité national, on se rend compte qu'ils ne souhaitent être qu'une garde triage. En réalité, ce sont les termes. Il y a Jacques Heilbronner, qui est à ce moment-là aussi vice-président du consistoire, qui dit « Nous n'avons pas d'intérêt, la France n'a pas d'intérêt à recevoir les réfugiés allemands. »
Garde triage pour les envoyer en Palestine.
Pour les envoyer. Parfois, ils ont été, et ça c'est très important parce qu'on en parle très peu, fin 1933, on a quand même renvoyé 388 personnes vers l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été renvoyées vers l'Allemagne parce que selon les comités de secours, ils ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient persécutés. Et il y a des gens qui sont conduits en Amérique, on les aide à se rendre aux États-Unis et en Palestine exactement, plusieurs centaines de personnes. Donc là, les raisons de cela, vous le disiez avec le terme Bosch, il y a quand même pour beaucoup d'Israélites la mémoire de la Première Guerre mondiale, on les appelait les fous de la République, les Israélites, c'est-à-dire que vraiment c'était des Juifs qui adoraient la France, ils sont pour beaucoup d'entre eux des anciens combattants, certains comme Jacques Heilbronner sont même proches de Pétain à l'époque, donc il y a la propagande anti-Bosch qui est encore très présente, ça reste des Bosch. Et puis, il y a la peur, vous le disiez, de l'antisémitisme, que leur arrivée déclenche une explosion d'antisémitisme en France, peu de temps après la crise économique qui provoque un accroissement du chômage, etc. Donc, on va les aider, mais surtout pas de politique. Alors, pas de politique, ça veut dire ne pas dénoncer ouvertement l'antisémitisme d'Hitler, ne pas dénoncer les nazis, ne pas prendre position. Et puis, en réalité, il y a des phrases que je cite. On dit, on a intérêt à garder quelques chimistes, mais pour la plupart d'entre eux, la France ne peut pas, pour des raisons d'antisémitisme et pour des raisons économiques, les garder. Et Raymond Aron s'indigne de cette situation.
Il s'en indigne, et puis c'est le moment aussi où la politique d'immigration vers la Palestine est ralenti par les autorités anglaises qui craignent en effet des frictions entre les Juifs et les Arabes. Mais qu'en est-il exactement, Martine Ebovici, de cette opposition du paria et du parvenu que théorise Hannah Arendt après Bernard Lazare?
Alors, il y a une chose que j'aimerais rappeler avant, par rapport à la manière dont Arendt comprend la situation du peuple juif. C'est-à-dire que je suis très frappée quand on regarde cette période-là, donc de Arendt à Paris ou en France, de sa sensibilité à l'égard des Ostjuden, des Juifs de l'Est et aussi ceux qui sont présents à Paris à ce moment-là, ceux qui arrivent de Pologne à ce moment-là. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui vient aussi de son expérience de l'histoire des Juifs allemands qu'elle est en train de travailler à ce moment-là, à savoir que l'assimilation des Juifs en Allemagne s'est faite à partir d'une division entre les Juifs de l'Est de l'Allemagne, de Posen et de Pologne, qui, pendant tout le XIXe siècle, ont afflué en Allemagne et jusqu'au début du XXe siècle aussi. La destination de beaucoup de Juifs polonais, c'était quand même aussi l'Allemagne. Et donc, les Juifs en voie... Alors, ils n'ont pas été émancipés en même temps que les Français, mais en tout cas, il y avait déjà une assimilation au XIXe siècle. Se différenciaient des Juifs venant de l'Est en Allemagne et craignaient ce qu'on retrouve, ce qu'elle a reconnu effectivement quand elle est arrivée en France, craignaient que l'afflux des Juifs encore en caftan, encore beaucoup plus traditionnalistes que les autres, visibles, des Juifs visibles, que tout cela menaçait leur intégration. Et là, il y a une première notion de paria, c'est-à-dire c'est aussi ce qu'elle a perçu déjà en Allemagne et qu'elle retrouve aussi en France, c'est-à-dire ces Juifs visibles, ces Juifs pauvres qui arrivent dans les pays, disons, plus développés. Alors ça, c'est un des sens du mot paria. Et il y a plusieurs sens, en fait, de ce mot. Il y a un sens qui vient de Max Weber, hein, qui est le peuple paria, dans ses travaux de l'époque sur l'antisémitisme, elle reprend effectivement toute l'idée de peuple paria, mais qui concerne les Juifs dans leur histoire, dans l'Ancien Régime. Et ça, c'est un sens aussi du mot paria. Et puis, il y a le fait que les Juifs qui sont insérés, enfin, qui cherchent à s'intégrer économiquement dans les sociétés, on va dire, occidentales, n'ont pas véritablement d'ancrage social. C'est-à-dire qu'ils sont socialement dans le vide. Hein, c'est ce qu'elle déploie dans le premier chapitre des Origines. Ils sont dans lui. Ils sont pas intégrés. Ils sont pas intégrés à la bourgeoisie. Ils sont pas intégrés à la noblesse. En même temps, ils ont une réussite économique, mais ils sont socialement dans le vide. Mais en même temps, certains d'entre eux cherchent à rentrer dans la société, cherchent à parvenir, hein, en se différenciant des parias, qui sont en particulier ceux qui viennent de la... Alors, il y a tout ce rapport entre les Juifs qui est entre paria et parvenu. Effectivement, ça vient de Bernard Lazare avec cette critique très importante que Bernard Lazare fait des relations entre les Juifs dont l'une des plus délétères, à son avis, est la philanthropie. Et ça, c'est ça qu'elle reprend aussi dans ce qu'elle perçoit de ce qui se passe en France entre les Israélites et les autres. Et puis, il y a un autre sens du mot paria, qui est en fait une élaboration poétique, une élaboration romanesque, qui prend quatre figures, c'est-à-dire celle de Heine, qui est le seigneur du monde du rêve. Il y a celle de Kafka, l'homme de bonne volonté. Il y a celle de Bernard Lazare, qui est le paria conscient. Et il y a Charlie Chaplin, qui justement n'est pas juif et qui est le suspect. Et donc là, le paria, c'est une élaboration romanesque, qui prend plusieurs formes, plusieurs figures.
Alors, d'un autre côté, peut-être oublie-t-elle aussi ce dont on a parlé la semaine dernière, cette réalité qu'a été le franco-judaïsme, c'est-à-dire, pour les Juifs, le fait de reconnaître, dans la Révolution française, l'accomplissement messianique. La Révolution française, si vous voulez, achevait le travail de la Bible, donc ils choisissaient la France, non pas par souci de fuir leurs conditions, mais parce qu'ils voyaient une sorte de parachèvement dans la Révolution française. Et puis aussi, il faut tenir compte de la situation faite aux réfugiés en général, mais par les gouvernements français. Et vous parlez, Marina Touyez, de l'arrivée au pouvoir d'Édouard Daladier après l'épisode du Front populaire, et son ministre de l'Intérieur adresse immédiatement, donc nous sommes le 14 avril 1938, une circulaire au préfet leur enjoignant de mener une action méthodique, énergique et prompte en vue de débarrasser notre pays des éléments étrangers indésirables qui y circulent et y agissent au mépris des lois et des règlements ou qui interviennent de façon inadmissible dans des querelles ou des conflits politiques ou sociaux qui ne regardent que nous. C'est pas Pétain, c'est Daladier, c'est 1938. Et donc là, si vous voulez, c'est une sorte de persécution qui commence, dont Arthur Koestler et Heinrich Blücher, le mari d'Anna Arendt dont nous allons parler, vont faire l'objet, puisqu'ils vont être l'un et l'autre internés. C'est quand même absolument extraordinaire, c'est une des révélations de votre livre. Ce comportement du gouvernement français vis-à-vis de ceux qui étaient venus se réfugier en France contre le nazisme. Marina Touyez.
Ce qui est très important, je crois, c'est que ça commence, cette politique du gouvernement commence en 34, 35. Pourquoi c'est important? C'est parce que là, on a à ce moment-là que 30 000, c'est très difficile d'estimer, 30 000, 25 à 30 000 réfugiés allemands. Parce qu'en 38, on pourrait dire, oui, mais il y a l'annexion de l'Autriche, donc on a encore une seconde vague. On pourrait dire que les gouvernements font cette politique sous la pression. Mais en réalité, c'est une politique qui commence dès 34. Le mot d'indésirable que vous venez de citer, qui va avoir des conséquences très juridiques de mise au ban et de mise en camp à partir de du décret de novembre 1938, donc s'installe à partir de 34. Alors un indésirable, je le montre hein, dans les circulaires, c'est quelqu'un qui peut être fauteur de troubles, qui peut avoir une activité politique anti-républicaine, mais c'est aussi finalement, il cite comme ça une liste de choses qui rendent quelqu'un indésirable, finalement c'est juste un chômeur étranger. Quelqu'un d'indésirable. Ça a un rapport avec le fait que il est un coût pour la société dans une société qui serait économiquement en crise. Donc on se rend compte qu'il y a un glissement comme ça du chômeur, de l'étranger, etc., qui va devenir à partir de 1938 si vous voulez, avec le Front populaire, il y a une sorte d'accalmie, mais qui n'est pas le statut de réfugié, par exemple, que les réfugiés attendaient, qui les aurait sécurisés. Il y a plutôt une accalmie dans le sens où les mesures sont moins systématiquement vers les réfugiés, moins systématiquement et fermement mises en place. Mais en réalité, les textes, on les garde. Il n'y a pas vraiment de réel changement sur la condition de réfugiés. Et à partir de 1938, vous le disiez, et le gouvernement Daladier, là, on a une politique très anti-réfugiés, avec même l'impossibilité pour les réfugiés de changer de département. Et puis, dès novembre 38, on prévoit de les mettre en camp, de les assigner à résidence ou de les mettre en camp. Alors, j'explique que ça se fait dans le cadre de la venue du ministère des Affaires étrangères du Reich allemand, von Ribbentrop, en décembre. Donc, c'est dans l'esprit aussi de préserver cette entente, notamment commerciale, avec l'Allemagne, et de verrouiller toute opposition à l'entente avec l'Allemagne. Alors, je reviens simplement si je peux, vous disiez, c'est pas Pétain. Alors, c'est déjà Pétain. C'est-à-dire que dans ces gouvernements, vous avez quand même, par exemple, Pierre Laval, qui est, pendant cette période, régulièrement ministre des Affaires étrangères, et il est même vice-président du Conseil, avant et après le Front populaire. Vous avez quand même, dans ces gouvernements, des gens qui sont proches de Pétain. Et puis, vous parliez de Koestler. Par rapport à ce que va vivre Koestler, qui va être interné, lui, pas parce qu'il est ressortissant d'une puissance ennemie, parce qu'il est hongrois, donc au moment de la déclaration de guerre, ça n'a pas de rapport. En réalité, il fait les frais d'avoir été condamné à mort par Franco. Et qui est ambassadeur de France en Espagne? Pétain.
Oui, il est interné en 1939, c'est ça?
Tout à fait, au Vernet.
Au camp du Vernet, dans des conditions qui sont littéralement concentrationnaires. D'ailleurs, il a écrit un livre extraordinaire, La Lie de la Terre, Arthur Koestler, sur cela. Mais enfin, ce que Pétain a ajouté, malgré tout, c'est dès l'armistice que la France s'engage à livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies et les territoires sous protectorat et sous mandat. Ça, c'est quand même la grande trahison inaugurale dès l'armistice. Mais en fait, oui, il y a eu cela, c'est-à-dire En 1939, le gouvernement, alors que la guerre est déclarée, nous sommes dans la guerre, n'a rien de plus pressé que d'interner les étrangers, ceux qui sont suspectés d'être la cinquième colonne, d'être nazis, et les antinazis aussi bien. Mmh. Ainsi seront internés Benjamin et Heinrich Blücher, le mari d'Anna Arendt, Heinrich Blücher, qu'elle a rencontré à Paris, je crois.
Oui, tout à fait, en 1936.
Et donc, c'est pour ça que c'est des années assez heureuses aussi.
Oui, exactement.
Parce que Günther Stern, ils étaient restés amis, mais ils n'avaient plus de rapports de conjugaux depuis l'Allemagne même. Ouais. Donc, elle rencontre Heinrich Blücher. C'est une histoire d'amour, d'ailleurs, très belle. Je l'ai appris dans votre livre, à quel point ils s'adoraient tous les deux. Et donc, lui et Benjamin sont internés dans des conditions terribles. Et donc, c'est en 1939, c'est avant Pétain, cela. Mmh. Comment expliquer cette attitude?
Je crois que d'abord, aussi, au milieu de toutes ces mesures, il y a quand même aussi un fait qui intervient, c'est la patridie. C'est-à-dire qu'à un moment, tous ces gens perdent leur nationalité d'origine. Et donc, il y a cette situation d'avoir affaire à des gens dont on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire, on ne sait pas... ils n'ont plus aucun gouvernement qui les protège. Alors, évidemment, là c'est toute le point de départ de la réflexion d'Arendt sur le droit d'avoir des droits et la condition des réfugiés. Maintenant, pour ce qui est de la façon dont les gouvernements, même de la Troisième République finissante, traitent les réfugiés, moi, ce qui me frappe beaucoup dans tout ça, et aussi dans le livre d'Arthur Koestler, c'est l'impréparation totale. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une volonté de martyriser les gens, c'est que on décide de les rassembler, par exemple, aux Veldives, mais même Marina raconte comment les femmes, à un certain moment, sont internées aux Veldives, mais il n'y a rien de prévu. C'est-à-dire que c'est la désorganisation la plus totale. On laisse les gens là, on n'a pas prévu d'eau, on n'a rien prévu. Et même à Gurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent quelque part, il n'y a rien. Et il faut qu'ils construisent tout. C'est-à-dire qu'il y a, moi, ce qui me frappe beaucoup, justement, c'est pas tant qu'il y a une intention de nuire aux gens, mais c'est une phase, enfin, c'est ce qui ressort du livre de Koestler, La Lie de la Terre. C'est le caractère aussi complètement improvisé, où les gens ne sont effectivement pas traités comme des humains, mais où on les laisse.
C'est désorganisé, mais c'est une violence quand même.
Mais ça donne une violence terrible, justement.
Terrible, systématique. Hein, alors, un mot maintenant sur une des figures de la tribu, pour reprendre votre terminologie, Marina Touyez, une figure absolument déchirante, Walter Benjamin. Cet ami, d'ailleurs, que tous ses amis, l'amitié tient une grande place en France pour Anna Arendt, dans son œuvre aussi, un ami donc que tous ses amis adorait et admirait. Il l'appelait Benji. Et Benji, j'apprends qu'il a été interné lui-même, alors qu'il est très malade. Il est interné dans un camp, et il avait assez de force quand même pour se lancer dans un cours de philosophie en plein air pour élèves avancés. La leçon d'une heure coûtait 3 gauloises, ou un clou, ou encore un crayon. Voilà. C'était Benjamin qui a fini par se suicider au moment de traverser la frontière avec l'Espagne, parce que cette traversée allait lui être interdite. Et d'ailleurs, il y a eu un grand nombre de suicides aussi dans cette période terrible, dans ce qui était quand même les sombres temps. Vous citez notamment Wolfgang Döblin, le fils d'Alfred Döblin, qui était un mathématicien, je crois, c'est ça ?
Oui.
Un mathématicien hyper doué, et qui met fin à ses jours alors qu'il avait 25 ans.
Et qu'il avait Benjamin, la nationalité française.
Et il avait la nationalité française, en plus. Et Benjamin, alors, c'était quoi cette trajectoire?
Alors,
Marina Touyez, puis
simplement, je voulais juste faire un tout petit retour sur la question précédente. Ajouter quelque chose, c'est complètement vrai qu'il y a une cruauté par négligence dans ces camps d'internement dans lesquels ils sont conduits. Mais il y a des grandes disparités. D'ailleurs, Benjamin, au château de Vernuche, là où il est interné, il dit « Nous mangeons assez largement ». Alors que Anna Arendt dira à Gurs qu'ils avaient été envoyés là pour crever et qu'elle n'avait pas à manger. Il y a des grandes disparités parce que c'est complètement ubuesque cet internement, d'ailleurs qui coûte très cher à la France en termes de soldats qui sont mobilisés. Enfin, mais je voudrais juste préciser que le Vernet c'est autre chose, que les gens y sont tondus, ils sont systématiquement humiliés et que il y a aussi une persécution systématique des personnalités les plus à gauche et les brigades internationales et les communistes dans ces camps-là, que ce soit au Vernet qui était le plus dur, mais également à Gurs, sont traités dans des conditions vraiment de répression politique infamante. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Là, c'est politique et c'est ciblé. Oui,
c'est-à-dire qu'on a l'impression aussi, quand on reprend cette période de l'histoire en France, que l'antisémitisme se combine avec d'autres obsessions, c'est-à-dire en particulier la peur de la gauche, la peur du communisme et la xénophobie, la xénophobie qui n'est pas toujours nécessairement la même chose que l'antisémitisme. C'est-à-dire que il y a une combinaison de préjugés qui cruels, meurtriers, tout ce qu'on veut, qui se combinent dans cette période. C'est ça qui est très frappant aussi, je trouve.
Et vous parliez, je reviens sur Walter Benjamin, vous en parliez. Alors, il y a cette rencontre qui se fait entre ces diverses personnalités assez incroyables. Il aurait fallu, on fera peut-être un tome 2 tellement il y aurait à raconter de ces gens qui sont tous à un côté anticonformiste, singulier, qui, voilà, c'est la chance de cette époque. Mais pour parler de Walter Benjamin, effectivement, ce qui est très touchant, c'est que quand Hannah Arendt sort de Gurs, dans des conditions voilà, où le chef de camp lui-même les laisse partir, ces femmes qu'il a...
Elle a été internée exactement quand, Hannah Arendt?
Elle a été internée, donc conduite au vélodrome d'hiver. Alors, elles avaient été convoquées. Certaines femmes ont été conduites, d'autres femmes ont été convoquées. Elle a été convoquée. Hannah Klenbord, son amie, l'a emmenée au stade du vélodrome d'hiver. Et de là, elles ont été, donc le 15 mai 1940, au moment où la France réinterne donc les réfugiés allemands, et ensuite une semaine à peu près plus tard, on a encore des, elle a dit des choses différentes, donc c'est difficile. Elle est conduite à Gurs et là, elle y restera trois quatre semaines, on pense. Il y a donc les Allemands rentrent dans Paris, la France est défaite. Elle choisit de partir parmi les premières sur les routes, même si c'est extrêmement périlleux parce qu'ils ne savent pas où se trouvent les gestapistes qui, ils en sont sûrs, vont les traquer. Eux, ils sont très conscients du fait qu'ils vont être traqués, qu'on ne les a pas oubliés, elle le dit très clairement. Et elle se retrouve à Lourdes. Alors, comment a-t-elle su, parce qu'il y avait quand même un système d'information informel qui s'était mis en place parmi les réfugiés, a-t-elle su que Benjamin s'y trouvait? C'est possible. Et elle s'y rend, ils passent quelques jours ensemble. Ce qui est très touchant, c'est que dans une lettre, quelques temps plus tard, elle racontera à Gershom Scholem les dernières semaines de Benjamin. Et elle raconte, quand ils apprennent la clause 19 de l'armistice dont vous parliez, ce moment où Pétain choisit de piétiner le droit d'asile et de livrer les réfugiés allemands à Hitler. Et elle dit, nous nous sommes tous deux sentis encore beaucoup plus mal. Donc je cite cette lettre du 17 octobre 41, Gershom Scholem, de Hannah Arendt. Mais je ne peux pas dire que Benji ait été pris d'une véritable panique. Nous avons tout de même eu vent des premiers suicides d'internés fuyant les Allemands. Et Benjamin a commencé pour la première fois à parler du suicide devant moi et à plusieurs reprises, disant qu'il restait tout de même cette issue, qu'il ne fallait en aucun cas s'y prendre trop tard. Donc, je vous remercie effectivement d'inscrire la mort de Walter Benjamin dans, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, dans une désespérance plus globale de tous ces anti-nazis qui sont surtout amenés à désespérer par le fait qu'ils sont lâchés par leurs amis. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, pour certains et pour beaucoup d'entre eux, ils étaient proches du Parti communiste, et même s'ils étaient critiques des staliniens, ils se retrouvent face au pacte germano-soviétique qui est terrible. Et ça, Stéphane Hessel a raconté aussi ces derniers moments avec Benjamin, où ça revient, c'est une blessure terrible. Et Koestler en parle également. Et puis l'internement par la France, ce pays des droits de l'homme, ce pays ami des Juifs, c'est les amis qui conduisent finalement à la désespérance. Et je raconte qu'Arthur Koestler lui-même, dans ces mêmes semaines, tente de se suicider.
Oui, c'est vrai.
Et il dit dans l'Allée de la Terre, nous savons que d'autres sont morts sans qu'on en fasse beaucoup d'histoires, mais l'important est de savoir pourquoi et comment un homme meurt, s'il est tué par son ennemi ou s'il est amené par ses amis à se tuer lui-même. On peut pardonner le crime, mais on ne doit pas le taire. Ces jours-là, je ne trouvais aucune raison de continuer la lutte.
Mmh. Oui, et donc, Hannah Arendt est internée à Gurs, elle quitte Gurs, et puis finalement, elle réussit, elle retrouve Blücher, sur les routes, en quelque sorte, elle réussit à se... Ils obtiennent finalement un visa, ils vont vivre en Amérique, où ils arrivent en 1941, je crois. Mais Heinrich Blücher, vous le citez, Marina Tuyez, justement, disait, pour moi, ma patrie, ce sont mes amis, ma maison, c'est toi, dit-il à Hannah Arendt. Et il ajoute qu'il avait un dégoût profond et sensible pour la nation et le nationalisme. Dans notre jeunesse, au cours de la Première Guerre mondiale, nous avons dû prendre conscience du bluff national. L'État national et la communauté politique devenus mensonges. La nation est le mensonge au moyen duquel un groupe d'intérêts se donne des airs de supériorité. Hannah Arendt partageait-elle ce jugement ? Est-ce la leçon qu'elle tirait de son séjour en France et puis de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, Martine Lebovici?
Alors, je crois qu'effectivement, ce qu'elle partageait avec Blücher, c'est la détestation du nationalisme, hein, c'est-à-dire d'une valorisation, d'une notion qui est une notion forgée et à ses yeux et qui implique aussi le rejet des autres. Maintenant, il y a chez elle une analyse de l'État-nation qui est extrêmement importante. Il lui arrive, par exemple, quand on regarde ce qu'elle écrit à propos de l'affaire Dreyfus et même à propos de Clémenceau, dont elle estime qu'il est le héros de l'affaire Dreyfus. Bon, il y en a d'autres, mais enfin, elle a des raisons de sortir Clémenceau de tout ça. C'est qu'elle dit, par exemple, de Clémenceau que il a été fidèle aux valeurs du jacobinisme et donc à une certaine idée de la nation qui peut être effectivement liée aux idées de liberté et d'égalité et que la France est l'État-nation par excellence. Mais le problème qu'elle découvre précisément à l'occasion du sort des apatrides et des réfugiés, c'est une impasse politique dans laquelle se met la structure politique de l'État-nation, c'est-à-dire une structure étatique qui se fonde sur des citoyens qui font partie de la même nation. Et que le problème, c'est que la citoyenneté est en même temps que la nationalité. Ce qui fait que des gens qui se trouvent arrivant en masse du fait des événements politiques dans les autres pays, arrivant en masse dans un État-nation qui n'a pas de... Comment dire, qui ne peut... Enfin, pour qui le droit d'asile est une solution qui était accordée individu par individu. Or, quand des masses de gens qui ne peuvent pas retourner dans leur pays franchissent les frontières, l'État-nation ne peut qu'agir en contradiction avec ses propres principes, qui sont des principes d'égalité devant la loi. Mais et donc, c'est ça qu'elle critique. Hein, c'est
ça qu'elle critique.
C'est la structure de l'État-nation.
D'un autre côté, elle dit ceci, que la formule des citoyens du monde, elle se demande si elle a un sens. Être un citoyen veut dire, entre autres, que l'on a des responsabilités, des obligations et des droits, toutes choses qui ne prennent leur sens que si elles s'inscrivent dans un territoire. Oui. Le citoyen du monde kantien est en fait un spectateur du monde.
Oui.
Et comme le dit Bérénice Levet dans son livre « Penser ce qui nous arrive » avec Hannah Arendt aux éditions de l'Observatoire, l'appartenance à une communauté concrète historique, forte de ses fondations, de ses lois propres, de ses frontières aussi, est la condition sine qua non d'une conscience politique authentique. Et j'ajoute qu'elle pensait, Hannah Arendt, que le nazisme n'était pas un nationalisme, que c'était autre
absolument,
chose.
Absolument.
Et la propagande nationaliste nazie était destinée à des compagnons de route et non pas à des adhérents convaincus. À ceci, le parti rappelait sans cesse sa conception logiquement supranationale de la politique.
Alors,
donc cela doit être pris en compte.
Oui, mais je ne suis pas d'accord avec l'analyse, enfin la façon dont Bérénice Levet retranscrit la pensée d'Arendt. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour Arendt, pour les d'une inscription dans un territoire ou dans une culture. Ce qui manque, ce qui fait défaut aux réfugiés et aux apatrides, c'est d'être partie prenante d'une communauté politique et non pas d'une communauté nationale au sens de l'ancrage dans une culture ancienne, etc. Parce que ce sont des gens qui ne sont protégés par aucun gouvernement, qui ne sont citoyens de nulle part. Donc le problème, c'est l'accès à la citoyenneté. Et le problème de l'État-nation, justement, c'est que ceux qui font les lois dans un État-nation, ce sont les citoyens. Et que quand des gens arrivent en masse, du fait des événements politiques qui les chassent, eh bien, ils ne trouvent aucun... Ils n'ont pas... En tout cas, à l'époque d'Arendt, parce qu'avec les lois internationales, ça a un petit peu changé, mais quand même, ils ne trouvent pas... ce qu'elle dit, c'est que leur voix et leurs actions ne peuvent pas avoir de signification, parce qu'ils ne peuvent pas agir en tant que citoyen et donc participer à l'élaboration des lois. Donc je crois que je suis pas d'accord avec la façon dont Bérénice Levet interprète la pensée d'Arendt sur la question de la nation.
Je citerai, non pas comme arbitre, mais comme témoin, André Suarez, dans son livre « Vue sur l'Europe », publié en 1939, oui. Où l'on tient à la nation et le sentiment national exige qu'on se défende, où l'on ne tient ni au sol natal, ni à la langue, ni à l'œuvre de 20 siècles, ni à tant de beauté, de vertu et de création originale, qu'on ose alors le dire et que l'on consent à livrer la nation aux ennemis qui veulent la détruire. Et Simone Veil disait que les Français, en 1940, ont laissé la patrie tomber par terre.
D'accord, mais ça va quand vous êtes Français. Mais quand vous êtes réfugié, apatride, comment pouvez-vous tenir ce discours? C'est pas la même expérience.
C'est pas la même expérience, mais on vient en France aussi pour ce qu'elle est et pour assimiler sa culture.
Alors ça, c'est toute une histoire.
C'est toute une histoire.
Par ailleurs, il y a eu beaucoup d'étrangers ensuite dans la résistance. Donc la résistance, il y a beaucoup d'étrangers. Je crois que il y avait un amour pour la France des réfugiés.
Mais notamment de Manouchian.
Par exemple.
Mais est-ce que c'était l'amour de la nation française comme
pour
telle?
Pour son humanisme.
C'était l'amour de la culture française, notamment de la poésie.
Oui, de la culture, absolument, mais la nation au sens que André Suarez la donne, c'est pas de ça qu'il s'agit, je crois.
Non, c'était un combat pour l'humanisme et justement effectivement pour ces valeurs y compris d'accueil.
Y compris d'accueil. Bah, oui. Et donc vous pensez aussi que pour Hannah Arendt, la nation, c'est d'abord la citoyenneté. Enfin, devrait être d'abord la citoyenneté plutôt que l'ancrage dans une langue et dans une culture. Marina Touyez.
Alors, j'ai pas du tout les compétences sur la pensée arendtienne que Martine Lebovici a. Je crois que la langue, c'était très important pour Hannah Arendt notamment. C'était une patrie, l'amitié, c'était une patrie également. Donc sur le rapport à la nation, ça, je vais laisser les.
J'ai dit un peu comment je concevais les choses. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a une analyse politique d'Arendt sur la structure politique de l'État-nation, c'est ça qui lui importe. Et effectivement, son expérience de réfugié à Paris est fondamentale pour élaborer ça. D'autant plus que la France est l'État-nation par excellence. Elle le dit à plusieurs reprises. Et ce qui a orienté aussi sa mise en question de cette structure politique qui qui a tendance à être exporté un petit peu partout et qui est d'ailleurs repris par tous les mouvements de libération nationale. Mais le premier moment où ça lui a paru problématique, c'est après la Première Guerre mondiale, quand le congrès de Versailles, sous l'impulsion d'ailleurs des nationalistes d'Europe centrale, ont divisé l'Empire austro-hongrois en États-nations. Et ces États-nations, dit-elle, c'est dans les origines du totalitarisme, sont des structures politiques dans lesquelles vous avez une forte minorité de gens qui ne se reconnaissent pas dans l'État qui a été créé au nom de la majorité, mais qui est d'une faible majorité, et que cela produit un déséquilibre constant, à savoir que la forte minorité ne se reconnaît pas dans l'État. C'est ce qui est arrivé avec la Tchécoslovaquie, c'est ce qui est arrivé avec la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, etc. Et que donc, dans une situation comme l'Europe centrale, et en particulier la désintégration de l'Empire austro-hongrois, ça ne pouvait forger que des pays qui étaient instables. Et donc, il fallait passer à une autre structure que la structure d'État-nation.
Alors, espérons que ce n'est pas ce qui va nous arriver avec la France d'aujourd'hui, mais c'est un tout autre sujet. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Et Marina Touillet, je cite votre beau livre, « Paria, Anna Arendt et la tribu en France, 1933-1941 », publié aux éditions de L'Échappée. Vous avez écrit... Martine Nebovici, Anna Arendt, une juive, expérience politique et histoire, chez Desclés de Brouwer. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Nicolas Mathias. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La crise de l'Occident. Mes invités seront Mathieu Bocoté et Raphaël Enthoven. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.